Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
Les recherches de l'agence QMI démontrent que les assassins qui ont été reconnus non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux entre 1990 et 2021 obtiennent une libération de l'hôpital psychiatrique après seulement 4 ans et 3 mois en moyenne. Puis, en comparaison, ben, les tueurs qui, eux, sont envoyés au pénitencier doivent purger un minimum de 10 ans d'incarcération et s'ils sortent un jour, ce qui n'est pas garanti, ils demeurent suivis à vie. Il y a des chercheurs qui se sont penché sur la question. Et on a Emmanuel Bernheim, titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice, qui est avec nous. Bonjour, Madame Bernheim.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette disparité entre la durée des détentions des tueurs condamnés et celle des meurtriers non criminellement responsables?
C'est évident qu'il faut, dans un premier temps, voir que lorsqu'on a un verdict de non-responsabilité, il n'y a pas de sentence qui vient avec ça. Hein. C'est pas une non-culpabilité, mais c'est pas non plus un verdict de culpabilité. C'est pas l'équivalent. Donc, c'est certain qu'il n'y a pas de sentence, donc il n'y a pas de terme. Donc, évidemment, la durée, par exemple, pendant laquelle une personne va pouvoir être détenue, comme vous dites, en hôpital psychiatrique, peut être plus longue comme plus courte que si ça avait été une sentence. En même temps, il faut voir que lorsque les personnes obtiennent une sortie de l'hôpital, c'est pas nécessairement une libération inconditionnelle. Ça va être le plus souvent une libération conditionnelle, puis ça peut être des conditions qui sont quand même très strictes. La base sur laquelle la décision va se prendre est celle, en fait, du risque que la personne représente au moment où on fait l'audience, en fait, devant la commission d'examen, qui est un tribunal administratif et non un tribunal judiciaire. Et donc, on n'est pas dans une logique de punition, donc on n'est pas dans une logique de sentence, on est vraiment dans une logique de
réhabilitation.
Oui, puis il faut garder à l'esprit le fait que la personne, c'est pas l'équivalent d'un verdict de culpabilité. Donc, le fait que cette personne-là puisse être gardée en détention comme ça dans un établissement psychiatrique, c'est exceptionnel. Dans le sens où si vous n'avez pas de verdict de culpabilité, a priori, là, le droit pénal n'a pas de pouvoir sur vous. Hein? Donc, si on peut vous garder en détention, par exemple, aussi en libération conditionnelle, c'est parce qu'on va considérer qu'il y a un risque pour la sécurité du public. Puis le niveau de risque doit quand même être un niveau important. Donc, la décision doit se prendre en fonction de ce niveau de risque-là, qui n'est pas le niveau de risque au moment de l'infraction, du délit commis. Ça va être le niveau de risque au moment où on fait l'audience. Et puis là, on va considérer aussi, par exemple, le soutien que cette personne peut avoir, que ce soit par son équipe traitante, par sa famille, etc. Donc, il va avoir plusieurs éléments comme ça considérés pour essayer de mitiger le risque. Faire en sorte que cette personne-là puisse se retrouver en société le plus vite possible. L'objectif, c'est, comme je dis, pas du tout de punir la personne.
Et vous dites que l'accès aux soins, c'est difficile, évidemment, on le sait, pour tout le monde, encore à plus forte raison pour les personnes qui ont des troubles mentaux très importants. Et certains doivent agir, finalement, commettre des meurtres, malheureusement, pour finalement avoir accès à de l'aide. Comment on peut justifier ça, expliquer ça comme société?
Et je pense qu'il faut aussi à prendre en considération le fait que la grande majorité, là, au Québec, la vaste majorité des personnes qui sont non responsables criminellement, puis qui vont se retrouver là, sous l'égide du tribunal administratif de la commission d'examen, ces personnes-là, la grande majorité d'entre elles n'ont pas commis de meurtre et n'ont pas commis de crimes graves. Donc, la plupart d'entre elles vont avoir commis des délits, c'est certain, mais des délits beaucoup moins graves. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir ça à l'esprit. Est-ce qu'on peut dire que les personnes sont obligées de commettre des délits pour avoir accès à des soins? Ben, déjà, il y a une première chose à prendre en considération, c'est que lorsqu'on se retrouve dans une situation comme celle-là avec un verdict de non-responsabilité, il n'y a pas de traitement qui vient avec ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une détention, effectivement, à l'hôpital, il peut y avoir une offre de soins.
Ah, ça ne veut pas dire que ça vient avec des soins psychiatriques dans cet hôpital-là?
Non. Ben, c'est-à-dire que les traitements sont disponibles, mais on peut pas forcer la personne via un verdict de non-responsabilité à prendre des traitements. Là, puis quand je parle de traitement, c'est vraiment de la médication, par exemple. Donc, la personne doit quand même consentir à ses soins malgré tout. Donc, ça veut même pas dire là que la personne accéderait nécessairement à ces soins-là si elle les refuse. Elle va être détenue, mais elle va pas nécessairement recevoir des traitements. Bien sûr, on essaye là de l'amener à s'insérer dans une démarche thérapeutique, ça ne veut pas dire que ça fonctionne. C'est certain que les services sont difficilement disponibles, comme vous l'avez dit, puis la variété des services n'est pas aussi tellement disponible, ce qui veut dire que bien souvent, tu sais, ça va être des services qui vont être finalement assez limités. Là, tu sais, on a quand même beaucoup entendu parler là, dernièrement de toutes les questions de psychothérapie, par exemple.
Oui.
Donc, tu sais, c'est pas couvert par la RAMQ, donc les personnes vont se retrouver bien souvent avec de la médication, un suivi qui est peut-être pas suffisamment régulier, intense, etc. Puis pas d'option, par exemple, comme celle-là, là, tu sais, d'avoir accès à de la psychothérapie, alors que c'est quelque chose. En tout cas, on constate que les gens le veulent, ils aimeraient accéder à ce genre de service, puis c'est pas disponible. Donc, il y a cet élément-là. Il y a la disponibilité des services, puis il y a aussi la disponibilité de quels services on choisit. En
fait, et la volonté de la personne à pouvoir à être traitée, finalement.
Ça, c'est certain. C'est un élément à considérer. Puis c'est pas parce qu'une personne a un diagnostic psychiatrique, peu importe sa situation, puis même après avoir commis une infraction criminelle, elle ne devient pas pour autant, ça perd pas pour autant son droit à consentir à ses soins. C'est vraiment deux choses complètement différentes.
C'est important de le rappeler. Merci beaucoup, Emmanuel Bernheim, d'être avec nous. Vous êtes titulaire de la recherche, de la chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice.
Merci à vous.